Ce que je dis n'engage que celui qui m'écoute. Mais je dis ça, je dis rien. Voilà, je viens de prononcer devant vous deux phrases assez banales que vous avez peut-être déjà entendues, mais qui sont deux phrases absolument terrifiantes, deux phrases absolument perverses, parce qu'elles tordent ce qu'est le rapport à une parole juste et vraie. Si je dis « ce que je dis n'engage que celui qui m'écoute », ben alors je me défausse de ce que je dis et puis j'oblige celui ou celle qui m'écoute à être pris dans ce que j'ai dit. Et on appelle ça de la manipulation, du pouvoir posé sur celui à qui on s'adresse. C'est absolument le contraire de ce qu'une parole devrait être, c'est-à-dire une rencontre, une parole qui ouvre et qui libère. Et puis si je dis « je dis ça, je dis rien », ça veut dire que je fais comme si la parole n'avait aucun sens, aucun poids, aucun effet, comme si on pouvait dire tout et n'importe quoi en l'air, alors que nous le savons, la parole a toujours du poids, toujours un effet, toujours un sens. Ce sont des phrases terrifiantes, ces deux phrases que je viens de vous dire, et je les trouve d'autant plus terrifiantes qu'elles me semblent assez symptomatiques du monde dans lequel nous vivons et nous sommes plongés. Un monde qui a tellement de difficultés à vivre dans une parole juste et authentique. On est tellement envahi d'infox. Vous savez que infox, c'est le nouveau nom pour dire fake news, qui était le nouveau nom pour dire fausse information. On est tellement plongé dans des tas d'informations dont on ne sait pas si elles sont justes, fausses, tordues, quelle est l'intention qu'il y a derrière, qu'on finit par être méfiant de tout et ne plus croire en rien. On est tellement plongé dans un monde où la langue de bois se démultiplie qu'on ne sait jamais si les phrases alambiquées et tordues que l'on nous sert sont là pour nous aider à comprendre ou au contraire pour mettre du brouillard et qu'on ne sache plus vers où aller. Il y a tellement et tellement d'éléments de langage qui se répandent de plus en plus qu'à force, toute phrase qui nous est dite, on se dit qu'elle doit vouloir dire l'inverse de ce qu'on nous dit ou qu'en tout cas, on veut nous faire prendre pour du bien ce qui est peut-être mauvais pour nous. On est tellement plongé dans de la communication qu'on en oublie ce que veut dire normalement le mot communication, qui est de mettre en commun, de partager, d'être en relation, d'être en confiance et de pouvoir dialoguer et construire ensemble. Oui, on est plongé dans ce monde où de plus en plus on invente une nouvelle langue faite à la fois de français, d'anglais, de phrases que positives, même pour dire des horreurs, de phrases floues. On appelle ça la novlangue, d'ailleurs. Mais vous savez que le mot novlangue, c'est un mot qui a été inventé par George Orwell, l'écrivain qui a écrit en 1949 le roman qui s'appelait 1984, donc qui à l'époque était un roman d'anticipation. Pour nous, on peut se dire qu'il est encore un roman d'anticipation, même si, par bien des côtés, il n'est plus de l'anticipation, mais peut-être déjà des choses réalisées ou en cours. Il invente ce concept, novlangue, pour dire que c'est la langue qu'invente le parti qui, dans son roman, est là pour s'emparer de la vie de tout le monde dans une société de plus en plus totalitaire. Et il ne faut pas que les gens soient libres, il faut que les gens pensent de la manière dont on veut les faire penser, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne pensent pas, pour qu'ils puissent être vraiment des objets. Et le langage est au service de ça, avec des mots qui sont transformés, avec des phrases qui sont raccourcies, avec des expressions contradictoires, qui ne veulent rien dire, mais qui deviennent comme des slogans. Enfin, c'est très très différent de notre époque. Voilà, on n'est pas en 1984, et pourtant, voilà, notre monde ressemble par bien des égards à ce monde où le langage est tordu. Et c'est dramatique. C'est dramatique parce que si on ne peut plus faire confiance en ce qui nous est dit, ou confiance en la personne qui nous parle, alors il n'y a plus de confiance. Et s'il n'y a plus de confiance, eh bien, il n'y a plus de possibilité de vraiment vivre ensemble. Et on sait combien notre monde a de plus en plus de peine à penser, à échanger, et qu'on est beaucoup plus dans la réactivité, dans l'émotion, dans l'instant. Et on sait que c'est parfois dramatique, parce que quand il n'y a plus de confiance, il y a au mieux de la méfiance, mais bien plus souvent de la défiance, ce qui est encore pire. Et on sait que ça peut créer beaucoup de colère, de rancœur, de violence. Voilà, on voit qu'un monde peut se détruire quand il n'y a plus la parole. Je vous dis ça, ce n'est pas pour vous déprimer en ce dimanche soir, c'est parce que en recevant les trois textes qui nous sont proposés pour ce soir, ben c'est à ça que j'ai pensé. Je me dis, voilà, notre monde est en crise autour de la parole. Et ben voilà que les trois textes que nous avons entendus sont trois textes qui sont des textes de temps de crise. Et chaque fois, un moment où c'est la parole qui est en crise, et où c'est aussi la parole qui est là pour être une sortie de crise. Le premier texte que vous avez entendu, que nous a lu Raphaël, c'est un extrait du livre de Daniel. Daniel, c'est le livre le plus récent de l'Ancien Testament. Il date du IIe siècle avant notre ère. C'est un livre qui est écrit dans une période traversée par le peuple juif, qui est une période de crise énorme. La Palestine est sous l'emprise, sous le règne de rois qui sont des rois séleucides, c'est-à-dire après Alexandre le Grand, donc dans les dynasties qui se sont réparties le pouvoir sur tout le Moyen et le Proche-Orient. Ce sont les séleucides qui, à ce moment-là, règnent sur la Palestine et qui cherchent à helléniser les Juifs. Non pas par bonté d'âme pour leur apporter une culture ou quoi que ce soit, mais par pouvoir, pour essayer d'avoir des gens qui pensent tous la même chose. Et en 167, avant notre ère, le roi s'appelle Antiochus IV, et lui, alors, il décide carrément de franchir un cran plus loin et de forcer les Juifs à renoncer à leur foi. Alors, pour ce faire, il interdit la circoncision, il interdit le sabbat, il profane le temple de Jérusalem en installant au cœur du temple de Jérusalem une statue de Zeus et en obligeant les Juifs à sacrifier à Zeus. Daniel, dans son livre, appelle ça l'abomination de la désolation. C'est-à-dire, c'est une catastrophe complète, une crise fantastique où la parole, la présence de la parole, la présence de Dieu devient quelque chose qui est fragilisé par toute cette violence, on pourrait dire, que ce pouvoir d'Antiochus IV met en place. Alors, dans ce contexte de crise, Daniel va écrire son livre pour que les croyants puissent garder espérance. Et il écrit dans un style qui se développe beaucoup à l'époque, qui s'appelle le style apocalyptique. Vous savez tous que le mot « apocalypse », ça ne veut pas dire « la fin du monde dans des catastrophes horribles », mais que ça veut dire « révélation ». Ce n'est pas un terme négatif, c'est un terme positif. Ça vient du grec « apokaluptein », qui veut dire « dévoiler ». C'est comme quand un rideau s'ouvre et qu'on peut voir la réalité qu'il y a derrière. Le style apocalyptique, c'est un style qui, à travers des images, des codes, des références culturelles qui parfois nous échappent, ou par rapport auxquelles nous n'avons plus les mêmes repères, dit à des gens qui sont dans de l'oppression qu'il ne faut pas qu'ils perdent courage parce que Dieu est avec eux. Plus fort que celui qui les opprime, il y a Dieu. Celui qui opprime, même s'il prend toute la place, il a déjà perdu. C'est une parole d'espérance, en fait, que le genre apocalyptique, c'est une parole qui appelle à la résistance, c'est-à-dire à tenir bon, parce qu'il y a cet horizon et cette force qui est donnée en un Dieu qui est présent. C'est ce que, dans le passage que nous avons lu, est exprimé. Quand il est question de quelqu'un semblable à un homme, est-il dit dans la traduction qui était là, dans le texte araméen, parce que c'est un passage en araméen dans l'Ancien Testament, il est dit « un fils d'homme ». Il y a un fils d'homme qui s'approche du vieillard. Alors le vieillard, c'est Dieu, symboliquement, dans ce texte, qui s'approche de Dieu, et Dieu lui confie le règne, la puissance, la gloire sur toute la terre et pour tous les temps. Ce fils d'homme, c'est cette image de quelqu'un qui, de la part de Dieu, va rassembler les siens et les aider à tenir à travers cette oppression. Cette expression « fils d'homme » va devenir une expression messianique, et vous savez que Jésus, deux siècles après, va se présenter très souvent en disant « le fils de l'homme », en référence directe à Daniel. Deuxième texte que nous avons lu, c'est tiré de l'Apocalypse, donc là pour le coup un livre qui porte dans son nom ce genre littéraire, l'Apocalypse qui est le livre le plus récent du Nouveau Testament, date de la fin du 1er siècle. Et là encore, c'est une situation de crise énorme, parce que c'est le moment où les chrétiens, qui sont depuis quelques années distincts du judaïsme, deviennent, ici ou là dans l'Empire romain, des objets de persécution. L'empereur romain, ici ou là, commence à persécuter les chrétiens, c'est-à-dire là aussi une crise de la parole, c'est-à-dire pour les empêcher de parler, de répandre la parole, de répandre la bonne nouvelle, alors on les élimine, on les exécute. Temps de crise, et dans ce temps de crise, pareil, un genre apocalyptique, là encore une fois, pas pour annoncer la fin du monde, mais pour annoncer la fin de l'oppression, et pour annoncer l'espérance à ces chrétiens qui souffrent. C'est un livre compliqué, l'Apocalypse, hein, si vous l'avez lu ou essayé de le lire, c'est tellement plein d'images codées, de symboles dont on a perdu le sens direct, qu'on a l'impression que c'est complètement ésotérique, alors que ce n'est pas du tout un livre ésotérique. C'est un livre qui parle de manière codée, parce que c'est en temps de crise. C'est un peu comme une littérature clandestine. Il ne faut pas que l'oppresseur puisse comprendre, mais celui qui reçoit, l'opprimé, lui, il comprend, parce que lui, il a les codes. 2000 ans après, il nous faut faire un gros travail pour retrouver le sens des images, des symboles, des chiffres, des couleurs, enfin bon, de tout ce qu'il y a dedans. Par exemple, dans le texte que nous venons de lire, eh bien, tout simplement, l'alpha et l'oméga, voilà, ça veut dire ce Dieu qui est depuis toujours et pour toujours. Et puis ce portrait de Jésus-Christ en gloire, qui est là pour dire, lui qui est le premier d'entre ceux qui sont revenus de la mort, lui qui est le ressuscité, c'est lui qui, à vous qui êtes persécutés, est la présence de Dieu et vous donne d'espérer et de résister. L'Apocalypse, en fait, c'est un grand témoignage rendu à Jésus-Christ présent auprès des siens dans un temps de crise. Jésus-Christ qui est au centre du troisième texte que nous avons lu. Là encore, un temps de crise, puisque c'est un extrait du procès de Jésus juste avant sa condamnation à mort et son exécution. C'est un moment où il est devant Pilate, donc le préfet romain. Il comparaît. Et on sait qu'il y a une discussion là entre Pilate et Jésus, mais on sait, nous, que cette discussion de la part de Pilate, elle n'est pas pour essayer de comprendre, puisqu'elle va mener à l'exécution de Jésus. Pilate, par exemple, et c'est l'extrait que nous venons de dire, lui met devant lui l'accusation la plus grave. « Es-tu le roi des Juifs ?» C'est une accusation très grave, parce que dans l'Empire romain, se proclamer roi, c'est être en sédition par rapport à l'empereur. C'est un crime de lèse-majesté et c'est punissable de la peine de mort dans l'Empire romain. « Es-tu le roi des Juifs ?» On pourrait dire que c'est une question intéressante que pose Pilate, mais le texte biblique nous montre que Pilate ne s'intéresse pas tant à la réponse, puisque bien que Jésus dise, dans l'extrait que nous venons de dire, en quelque sorte, « Je suis roi, mais je ne suis pas roi des Juifs », c'est-à-dire « Je ne suis pas roi de ce monde, dans ce monde, je n'ai pas avec moi une armée qui viendrait me défendre, je ne tiens pas mon pouvoir d'ici-bas », dit-il. « Je ne suis pas comme empereur romain », dit-il en même temps. « Je tiens mon pouvoir de Dieu, c'est-à-dire je suis dans une autre dimension du règne de Dieu et de sa présence. » Mais Pilate n'entend pas cela, puisque un peu après, il va présenter Jésus à la foule pour que la foule tranche, et il va dire « Voilà, le roi des Juifs ». Et puis Jésus va être moqué comme étant le roi des Juifs. Et puis Jésus va être exécuté avec un panneau que Pilate fait « Le roi des Juifs ». C'est-à-dire Pilate reste enfermé dans cette accusation, parce que Pilate est dans le pouvoir. Il a le pouvoir, dit-il d'ailleurs, c'est un peu plus tard que dans notre passage, il dit à Jésus « J'ai le pouvoir sur toi ». De vie et de mort. Alors Jésus répond, et dans sa réponse, Jésus parle de la vérité. Ce passage que nous avons entendu, « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ce que je dis. » Alors juste après, la lecture qu'ils nous ont proposée s'arrête juste là, mais alors juste après, la phrase qui suit, c'est la fameuse question de Pilate. Qu'est-ce que la vérité ? Là aussi on peut se dire, mais c'est une réponse. C'est une question très intéressante, mais Pilate n'attend pas de réponse, parce que juste encore après, il ne laisse pas Jésus répondre, il sort pour continuer ses allers-retours avec les chefs du peuple qui veulent la mort de Jésus. Jésus parle de la vérité. Et voilà que nous avons une scène, finalement, qui nous parle de la parole et qui ressemble fortement à notre monde. Nous avons d'un côté Pilate qui parle, mais Pilate qui est dans le pouvoir, il a une parole de pouvoir. Et cette parole qui n'attend pas de réponse, cette parole, elle se termine par la mort. Et de l'autre, nous avons Jésus qui répond, donc qui parle aussi, mais lui, il n'est pas dans une parole de pouvoir, mais dans une parole de service pour ouvrir la relation et ça va se démultiplier dans la vie. Il y a une confrontation entre les deux. Et c'est la vérité qui est au centre de ce que dit Jésus. La vérité, c'est en grec un mot qui est aletheia. Il se trouve 25 fois dans l'évangile de Jean. Alors, pour préparer cette prédication, j'ai regardé toutes les occurrences. 25 fois, c'est-à-dire c'est un texte c'est un mot très très présent. Et je vais vous citer rapidement quelques exemples. C'est souvent des versets qu'on connaît, en fait, parce que ce sont des versets extrêmement importants. Alors, parfois, la vérité est associée à Dieu. Par exemple, il s'agit d'adorer le Père en esprit et en vérité. Ou alors, la parole de Dieu est vérité. Parfois, il s'agit de la parole de Jésus ou de la personne de Jésus. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Ou alors plus loin, Jean-Baptiste a rendu témoignage à la vérité. Ou encore un peu plus loin, Jésus dit la vérité qui vient de Dieu. Ou encore, il est le chemin, la vérité et la vie. Parfois, ça parle aussi de l'Esprit-Saint. Plusieurs fois, l'Esprit-Saint est nommé l'Esprit de vérité. Ça parle aussi des croyants. Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. L'Esprit les conduira dans toute la vérité. Ils seront sanctifiés dans la vérité de Dieu. Et puis, ça parle aussi du diable. Alors, le diable, vous savez que c'est une figure symbolique du mal. Le mal, lui, qui n'est pas symbolique, nous le savons. Eh bien, l'Évangile de Jean dit que le diable est caractérisé par le fait de ne pas se tenir dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Voilà, pour le dire autrement, la vérité dont parle Jésus à Pilate, c'est tout ça. C'est l'Évangile, pour le dire autrement. C'est Dieu, c'est l'incarnation en Jésus-Christ, c'est la présence du Saint-Esprit, c'est ce à quoi les croyants sont appelés à vivre, c'est ce que le mal n'est pas. La vérité, c'est la juste relation entre nous, avec Dieu, c'est une parole fiable, c'est une authentique présence, c'est tout cela que dit Jésus quand il parle de la vérité. Une vérité à la fois objective, ce sont ses paroles, ce qu'il dit est fiable, ce que nous lisons dans la Bible est pour nous véridique, est pour nous vérité sur laquelle s'appuyer. C'est pour ça que nous lisons la Bible régulièrement. C'est pour ça que chacun de vous la lit au moins une fois tous les jours, j'espère, ou à partir de demain peut-être, ou en tout cas, mais parfois il faut se forcer un peu, mais c'est parce que c'est si important, parce que ces paroles sont des paroles qui nous disent du vrai pour nos vies. Et ces paroles, ce ne sont pas que des paroles objectives, ce sont aussi des paroles subjectives, c'est-à-dire qui font de nous des sujets, parce qu'elles sont portées par une personne, par le Christ lui-même, dans l'Esprit-Saint. C'est lui qui nous parle, c'est lui qui fait relation avec nous. La parole a été faite chair, la vérité, c'est le Christ lui-même. Alors voilà, je me suis dit que tout ça, ça me semble résonner tellement avec ce que nous vivons dans notre monde, où la vérité est tellement éprouvée, où la parole est tellement faussée, où la confiance est tellement malmenée, que nous sentons bien que beaucoup de choses se défont. Et je me dis, voilà, comme dans d'autres temps de crise dont l'Écriture nous rend compte, eh bien, le temps de crise qui est le nôtre, c'est aussi ce moment où une parole nous est donnée pour que nous soyons à notre tour porteurs de cette espérance qui est celle d'un Dieu présent pour tous, d'un Dieu présent tout le temps, d'un Dieu présent avec nous, qui n'enlève pas la difficulté de vivre, mais qui nous porte dans cette difficulté de vivre. Un Dieu dont la parole est fiable, dont la parole est vérité, dont la présence est authentique pour nos vies. Eh bien, c'est à nous d'être porteurs de cela. Dans l'Apocalypse, vous l'avez entendu, l'auteur dit que le Christ a fait de nous un royaume de prêtres. Nous sommes tous des prêtres, c'est-à-dire que nous sommes tous porteurs de cette parole qui est relation à Dieu dans la prière et de cette parole qui est relation aux autres dans le partage et le témoignage. Et puis Jésus dit, celui qui appartient à la vérité écoute ce que je dis. Il nous transmet sa parole pour que nous la portions à notre tour. Vivre et parler en vérité, c'est notre mission dans ce monde qui en a tant besoin. Sinon, ça serait désespérant. Sinon, il n'y aurait qu'à tout arrêter ou se replier entre nous. Non, c'est notre mission. Par fidélité à notre foi et par espérance pour ce monde. Pouvoir parler et vivre en vérité. Et en disant ça, j'ai été marqué, et je termine par là, par une phrase dans le livre que, dans le cercle de lecture que nous avons une fois par mois à Pantemont, le livre que nous avons discuté lundi après-midi, il y a une semaine à peine. C'est un livre de Serge Mola qui s'appelle Martin Luther King, prophète. C'est un peu comme une biographie de Martin Luther King, mais c'est surtout une analyse du contexte et en particulier de comment Martin Luther King était pasteur, était chrétien. Ne faisait pas un engagement par simple goût de l'engagement ou par stratégie, mais au nom de sa foi. Et Serge Mola écrit cette phrase que j'ai trouvée très belle. Martin Luther King cherchait moins à prendre la parole sur tous les sujets du moment qu'à témoigner qu'il avait été pris par une parole appelée à en répondre. Et je me dis finalement, c'est ça notre rôle de chrétien. C'est pas prendre la parole, c'est pas rajouter de la parole à la parole, c'est être pris par la parole avec un grand P, par la parole de Dieu, parole de vérité, parole pour notre monde, c'est notre mission. Alors voilà, plutôt que de dire ou de répéter ou ce que je dis n'engage que celui qui m'écoute, nous voilà appelés à dire plutôt ce que je dis m'engage auprès de ceux qui m'écoutent. Et au lieu de dire je dis ça, je dis rien, nous voilà plutôt appelés à dire je dis ça, je dis l'essentiel. La parole du Seigneur est vérité qui nous sanctifie par sa vérité. Amen.